France Inter. Les admirations littéraires de Fabrice Luchini sur France Inter.
Alors bonsoir, bonsoir. J'ai lu il y a quelques semaines des portraits de Victor Hugo, le magnifique portrait de Talleyrand. Mais évidemment, aujourd'hui, on est le 8 décembre. C'est la réouverture officielle de Notre-Dame. Notre-Dame a compté énormément dans la vie de Victor Hugo, au point même où certaines personnes, et ils ont raison, affirment que la réhabilitation de Notre-Dame est grandement due à Victor Hugo. Évidemment, la cathédrale rouvre après 5 ans de travaux, l'incendie de 2019, et aujourd'hui, dimanche 8 décembre, c'est la grande ouverture. Mais quand je dis que Victor Hugo a compté, c'est que le côté délabré de la cathédrale a été totalement mis en scène par Victor Hugo. Il s'est profondément investi. Et si on a Notre-Dame telle qu'elle est depuis, Hugo n'est pas irresponsable de ça. C'est incroyable la richesse de ce bonhomme. Il est capable de s'investir contre la peine de mort, sur Notre-Dame. Il est aussi un poète fabuleux. Il est le poète tragique de la mort de Léopoldine. Il est le grand journaliste de choses vues. Finalement, Victor Hugo, ça se résume par une phrase de Jouvet. Jouvet dit, il y a des gens qui n'aiment pas Victor Hugo, il y a des gens qui adorent Victor Hugo, Aragon adorait Victor Hugo, André Gide détestait Victor Hugo, etc., etc. Baudelaire adorait Victor Hugo, d'autres ne l'aimaient pas. Mais Hugo dit cette phrase étonnante que je dis d'ailleurs dans mon spectacle sur Victor Hugo. Hugo est une montagne, disait Louis Jouvet. On n'a ni à aimer, ni à pas aimer, elle est là. Donc Hugo est une montagne. Et il a écrit un roman de jeunesse, puisqu'il est autour de 30 ans, il a écrit Notre-Dame. Alors, je connais mal ce roman, je l'ai relu depuis tous les événements. Moi, je me concentre surtout sur le Hugo de l'exil, bien plus tard, 1843, la mort de sa fille, 10 ans plus tard, le départ, la révolution, Napoléon III, les tables, le spiritisme. Donc, je connais moins bien ces romans. Mais j'ai relu, évidemment, Notre-Dame de Paris. C'est un des romans les plus célèbres de Victor Hugo. Et c'est d'ailleurs là qu'il a mis en avant le délabrement de cette cathédrale, comme je l'ai dit, et qu'il a plaidé pour la préservation de ce patrimoine. Alors, je vais quand même vous lire un tout petit extrait du roman Notre-Dame, très connu, où il décrit de façon prémonitoire, c'est ça qui est hallucinant, l'incendie de Notre-Dame. Et puis je consacrerai mon admiration littéraire de cette journée à un texte qu'il a écrit sur l'affaire Huber. Alors l'affaire Huber, c'est l'incarnation, la pratique de sa thèse, mis en action de sa haine de la peine de mort. Je ne peux pas m'empêcher de penser à cette remarque de Jules Renard. Jules Renard avait une passion pour Victor Hugo et dans son journal, il écrit « Victor Hugo est tellement immense qu'on en oublie qu'il s'appelle Victor comme tout le monde ». Bien. Alors là, j'ai pris un extrait de Notre-Dame de Paris parce que c'est une prophétie, c'est prémonitoire. Tous les yeux s'étaient levés vers le haut de l'église. Ce qu'il voyait était extraordinaire. Sur le sommet de la galerie la plus élevée, plus haut que la rosace centrale, il y avait une grande flamme qui montait entre les deux clochers avec des tourbillons d'étincelles. Une grande flamme désordonnée et furieuse, dont le vent emportait par moments un lambeau dans la fumée. Au-dessous de cette flamme, au-dessous de la sombre balustrade à trèfle de braise, deux gouttières en gueule de monstre vomissaient sans relâche cette pluie ardente qui détachait son ruissellement argenté sur les ténèbres de la façade inférieure. À mesure qu'ils approchaient du sol, les deux jets de plomb liquide s'élargissaient en gerbes comme l'eau qui jaillit des 1000 trous de l'arrosoir. au-dessus de la flamme, les énormes tours, de chacune desquelles on voyait deux faces crues et tranchées, l'une toute noire, l'autre toute rouge, semblaient plus grandes encore de toute l'immensité de l'ombre qu'elles projetaient jusque dans le ciel. Leurs innombrables sculptures de diables et de dragons prenaient un aspect lugubre. La clarté inquiète de la flamme les faisait remuer à l'œil. Il y avait des guivres qui avaient l'air de rire, des gargouilles qu'on croyait entendre japper, des salamandres qui soufflaient dans le feu, des tarasques qui éternuaient dans la fumée. Et parmi ces monstres, ainsi réveillés de leur sommeil de pierre, par cette flamme, par ce bruit, il y en avait un qui marchait et qu'on voyait de temps en temps passer sur le front ardent du bûcher comme une chauve-souris devant une chandelle. C'est une prophétie étonnante.
Un extrait de l'opéra « La Esmeralda » de Louise Bertin sur un livret de Victor Hugo.
Thank you.
Les admirations littéraires de Fabrice Luchini.
Alors, j'ai un texte que j'aime énormément. C'est un texte écrit pendant qu'il est en exil, qui est la concrétisation de sa thèse sur la peine de mort. C'est une affaire très grave qu'on a appelée l'affaire Hubert. Il y avait à Jersey une communauté de proscrits. Il y avait une centaine de proscrits, de gens qui ont été renvoyés de France, qui étaient condamnés à des peines très importantes, souvent des communistes radicaux, et qui étaient donc les ennemis de Napoléon III. Et cette communauté était remplie de gens peu fortunés, misérables, exilés par les républiques. Les dissensions y étaient fréquentes. La crainte, d'ailleurs assez justifiée, des mouches, ou ce qu'on appelait les mouchards, les traîtres, ce qu'on appelait aussi les retournés, par la police politique française, était permanente. Alors voilà ce qui s'est passé, parce qu'ils ont trouvé un mouchard immonde, un certain Hubert, d'où l'affaire Hubert, écrit à la hâte, dit Victor Hugo, et non revu. C'est un récit. Hier, le 20 octobre 1853, j'étais, comme mon habitude, allé le soir à la ville. J'avais écrit deux lettres, l'une pour Londres à Schaeffler, l'autre pour Bruxelles à Samuel, que je tenais à mettre moi-même à la poste. Je m'en revenais, il faisait clair de lune, il pouvait être entre 9h et 9h30, lorsqu'en passant à l'endroit que nous appelons Tape et Flaque, espèce de petite place vis-à-vis de l'épicier Gosset, un groupe effaré m'aborda. C'était quatre proscrits. Mahé, alors Mahé est un représentant à la Constituante, c'est un proscrit après le coup d'État, représentant du peuple. Ratier était un opposant à la politique, un avocat qui s'appelle Hayes, un autre qui s'appelle Sans Couture, qui est cordonnier, et Henri, dit petit père Henri, dont j'ignore la profession. « Qu'avez-vous ?» leur dis-je, les voyant tout émus. « Nous venons d'exécuter un homme, » me dit Mahé. Et il agitait un rouleau de papier qu'il tenait à la main. Alors ils me contèrent rapidement ceci. M'étant retiré depuis le mois de mai des sociétés de proscrits et vivant à la campagne, tous ces faits étaient nouveaux pour moi. Au mois d'avril dernier, un homme débarqué à Jersey, un réfugié politique. Le cabaretier Beauvais, qui est un cœur généreux, se promenait sur le quai au moment où le paquet c'est le petit bateau chargé des liaisons périodiques avec le continent, au moment où le paquet aborda. Il vit cet homme, il était pâle, défait, en haillons, portant un petit paquet misérable. « Qui êtes-vous ? » dit Beauvais. « Un proscrit, votre nom, Hubert. » « Où allez-vous ? Je ne sais pas. Vous n'avez pas d'auberge. Je n'ai pas de quoi payer. Venez chez moi. » Beauvais emmena Hubert chez lui. Beauvais avait son petit établissement, Down Street, numéro 20. Hubert était un homme de 50 ans, ayant les cheveux blancs, la moustache noire, le visage marqué de petites véroles, l'air robuste, l'air intelligent. Il se disait ancien maître d'école, arpenteur géomètre. Il était du département de l'Eure. On l'avait expulsé au 2 décembre. Il s'était rendu à Bruxelles, où il était venu me voir. Chassé de Bruxelles, il était allé à Londres. À Londres, il avait vécu plus d'un an dans les derniers échelons de la misère de la proscription. Il avait habité 5 mois d'hiver dans ce qu'on appelait une sociale. Une sociale, c'est une espèce de grande salle délabrée dont les portes et les fenêtres laissaient passer le vent et dont le plafond laissait passer la pluie. Il avait couché les 2 premiers mois de son arrivée, côte à côte avec un autre proscrit qui s'appelait Bourillon, sur la dalle de pierre devant la cheminée. Ces hommes couchaient sur cette dalle sans matelas, sans couverture, sans une poignée de paille, avec leurs haillons mouillés sur le corps. Il n'y avait pas de feu dans la cheminée, ce n'était qu'au bout de 2 mois que Louis Blanc et Ledru Rollin avaient donné quelque argent pour acheter du charbon. Quand ces hommes avaient des pommes de terre, ils les faisaient cuire dans l'eau et ils dînaient. Quand ils n'en avaient pas, ils ne mangeaient pas. Hubert, sans argent, sans lit, presque sans souliers, sans vêtements, vivait là, dormait sur cette pierre, grelottait toujours, mangeait rarement, ne se plaignait jamais. Il prenait sa large part de la souffrance de tous, stoïque, impassible, silencieux. Il avait fait partie de la société la délégation, puis l'avait quitté en disant « Félix Pia n'est pas socialiste », après quoi il était entré dans la société La Révolution et s'en était séparé en disant « Le Drurolin n'est pas républicain ». Le 14 septembre 1852, le préfet de l'Eure lui avait écrit pour l'engager à faire sa soumission. Hubert avait répondu à ce préfet une lettre peu ménagée, lui prodiguant ainsi qu'à son empereur les mots les plus crus, les plus vrais, les mots comme clic, canaille, misérable, etc., etc. Bon, ça c'était déjà le coup monté. On lui a proposé de revenir dans la légalité, il a fait semblant de dire pas du tout. Donc tout ça c'était des lettres de noblesse pour les proscrits. Il avait montré cette lettre, tiens, exactement datée du 24 septembre à tous les proscrits qu'il avait rencontrés et il avait fait afficher dans la salle où se réunissaient les sociétaires de la Révolution. Le 5 février, on avait lu son nom au moniteur dans la liste des graciers. Alors les graciers, c'est que le nouveau régime cherchait à assurer sa stabilité et à faire oublier sa violence en graciant les opposants les plus illustres ou les moins compromis. Les intéressés devaient préalablement faire leur soumission, demander leur grâce et s'engager à renoncer à toute menée subversive. Hugo, par exemple, à Bruxelles, ayant la publication de Napoléon le Petit, avait été plusieurs fois abordé en ce sens, mais il n'a jamais accepté. Donc Hubert s'était répandu en indignation et au lieu de rentrer en France, il était allé à Jersey en disant « Les républicains sont meilleurs qu'à Londres ». Il était donc débarqué à Saint-Hélier. En arrivant chez Beauvais, Beauvais lui montra une chambre, un lit très propre, lui dit « Voilà votre chambre, je vous ai dit que je n'avais pas de quoi payer », dit Hubert. « C'est égal », dit Beauvais, « donnez-moi un coin, une botte de paille dans le grenier, je vous donnerai plutôt », reprit Beauvais, « ma chambre et mon lit ». Aux heures de repas, Hubert ne voulait pas se mettre à table. Plusieurs proscrits étaient en pension chez Beauvais, ils y déjeunaient, ils y dînaient pour 35 francs par mois. « Je n'ai pas 35 sous », disait Hubert, « donnez-moi un morceau sur le pouce, je mangerai sur le coin de la table de cuisine ». Beauvais se fâchait, « pas de ça, vous dînerez avec nous, citoyens, et vous payez quand vous pourrez, mais jamais, eh ben jamais ». Beauvais procura à Hubert quelques leçons de grammaire et de calcul dans la ville, et du produit de ces leçons, il le força de s'acheter un paletot et des souliers. Mais des souliers, j'en ai, disait Hubert. Oui, vous avez des souliers, mais vous n'avez pas de semelles. Les proscrits s'émurent de la situation de Hubert. On lui assigna le secours ordinaire alloué aux nécessiteux, sans femme ni enfant, 7 francs par semaine. Avec ça, des leçons, il vivait. Hors de là, il ne recevait rien. Plusieurs entre autres, Gaffney, lui offrirent de l'argent. Il n'accepta point. Non, non, il y en a de plus malheureux que moi. Il se rendait utile chez Beauvais. Il y tenait le moins de place possible, il se levait de table avant la fin, ne buvait jamais de vin ni d'eau de vie, refusait de laisser remplir son verre, du reste communiste ardent, rejetant toute espèce de chef, déclarant la République trahie par Louis Blanc, par Félix Pia, par Le Drurlin, par moi, Victor Hugo, réclamant la chute de Bonaparte qu'il appelait toujours Badinguet, un massacre de 6 mois pour en finir, imposant à force de souffrance et de gravité, même à ceux qui évitaient son contact, une sorte de respect, ayant en lui je ne sais quelle évidence de probité farouche. Un modéré disait de lui à un exalté « C'est pire que Robespierre ». L'exalté répondit « C'est mieux que Marat ». C'était là le masque qui venait de tomber. Cet homme était un espion. Alors là, il y a beaucoup de pages qui expliquent comment ils l'ont attrapé. Alors, il y a beaucoup d'explications. En gros, il avait une malle. Dans cette malle, il y avait un double fond. Il faisait semblant d'écrire à sa mère. Et derrière, il y avait des lettres au préfet de police pour dénoncer tous les gens, etc., etc. Et il est pris par tous. Et là, c'est l'horreur. Ils veulent le lyncher. Ils veulent le tuer. C'est Ceausescu, quoi. Ils veulent le tuer. Et à un moment, c'est là que arrive Victor Hugo, on le met dans un coin, et voilà comment ça s'est passé. La salle où on allait juger Hubert, dit cercle des proscrits, est une de ces grandes salles en équerre, comme il y en a dans presque toutes les maisons anglaises. Ces salles, peu appréciées de nous autres Français, prenne vue sur les deux façades de devant et de derrière. Celle-ci, située au premier étage de la maison Beauvais, Don Street, numéro 20, à deux fenêtres sur une cour intérieure et trois fenêtres sur la rue, vis-à-vis la grande devanture rouge de la bâtisse destinée au bal public qu'on appelle ici hôtel de ville. Quelques groupes d'habitants de la ville, émus des rumeurs qui circulaient, causaient à voix basse sous les fenêtres. Les proscrits arrivaient de tous les côtés. Quand j'entrais, presque tous étaient déjà réunis. Ils étaient disséminés dans les deux compartiments de la salle et chuchotaient entre eux d'un air grave. Hubert était venu me voir à Bruxelles et à Jersey, mais je n'avais gardé de cet homme aucun souvenir. Donc je pense que Hugo débarque dans le faux procès qui va arriver. Quand j'entrais, je dis à Hurtbees où est Hubert. Derrière vous, me dit Hurtbees. Je me retournais et je vis assis à une table adossée au mur du côté de la rue, sous la fenêtre du milieu, une pipe devant lui, le chapeau sur la tête, un homme d'environ 50 ans, coloré, marqué de petites véroles aux cheveux très blancs, aux moustaches très noires. Ses yeux étaient fixes et tranquilles. De temps en temps, il soulevait son chapeau, s'essuyait le front avec un gros mouchoir bleu. Son paletot de couleur brune était boutonné jusqu'au menton. Maintenant qu'on savait qui il était, on lui trouvait la mine d'un sergent de ville. On allait et venait devant lui, autour de lui, à côté de lui, en parlant de lui. « C'est là ce lâche, disait l'un, voilà le bandit, disait l'autre. » Il entendait ses paroles échangées à voix haute et regardait ceux qui parlaient absolument comme s'ils eussent parlé d'un autre. Quoique la salle où survenaient sans cesse de nouveaux arrivants fût encombrée, il y avait un vide autour de lui. Il était seul à sa table et sur son banc. Quatre ou cinq proscrits debout dans les deux angles de la fenêtre le gardaient. L'un d'eux était Bonny. Bonny est un ouvrier républicain qui avait fait le coup d'État. Il mourut d'ailleurs à Jersey et Hugo a prononcé un très beau discours lors de ses funérailles. Donc il y avait Bonny qui nous montre à monter à cheval. La proscription était à peu près au complet. Quoique la convocation eût été faite à la hâte, au milieu de la nuit, la plupart étaient couchés et endormis. Pourtant, on remarquait quelques absences. Pierre Leroux, après avoir assisté au premier choc de Hubert et des proscrits, s'en était allé et n'était pas revenu. Et de toute la famille très nombreuse qu'on appelle ici la tribu Leroux, il n'y avait là qu'un seul membre. Peu importe. Et là, il faut aller et créer ce qu'on appelle le comité révolutionnaire. On est allé chercher la commission qui avait fait l'enquête. À l'arriva, Maé qui sortait du lit avait l'air tout endormi. On imagine la scène, tous les mecs sont réveillés dans la nuit, on va juger ce gars en 2 heures, c'est évident qu'il va être tué. Parmi les réfugiés présents, un ancien vieilli dans les conspirations avait l'habitude de ces sortes de procès sommaires entre proscrits dans les catacombes, espèce de séance de francs juges où le mystère n'exclut pas la solennité et où il s'est plus d'une fois prononcé d'effrayants arrêts que tous sanctionnent et que quelques-uns exécutent. Cet ancien était Caègne, vieux de visage, jeune de cœur, né camard, encadré dans une barbe grise et dans des cheveux blancs, républicain à face de cosaque, démocrate à manière de gentilhomme, poète, homme du monde, homme d'action, combattant des barricades, vétéran des complots. Caègne est une figure. On lui cria « présider ». Et on lui donna pour secrétaire Jarassé, qui est de la société dite Fraternité, et Hurtbees, qui est de la société dite Fraternelle. Cette fraternité, cette fraternelle ne vivent pas fraternellement. La séance s'ouvrit. Un grand silence se fit. La salle en ce moment présentait un aspect étrange. Au-dessous des plafonds des deux compartiments, éclairés chacun et très faiblement par deux becs de gaz, s'étageaient et se groupaient assis, debout, accroupis, accoudés sur les bancs, sur les chaises, sur les tabourets, sur les tables, sur les appuis des fenêtres, quelques-uns, bras croisés, adossés au mur, tous pâles, graves, sévères, presque sinistres, les 70 proscrits républicains de Jersey. Il remplissait les deux compartiments de la salle, laissant seulement dans le compartiment aux trois fenêtres donnant sur la rue un petit espace libre, occupé par trois tables. La table près du mur où Hubert était seul, une table tout auprès où était K.N., Jarassé et Hortebise, et en face, une plus petite entourée des membres de la commission et sur laquelle Ratier, le rapporteur, avait posé le dossier. Derrière cette table flambait une cheminée pleine de charbon de terre où chantait je ne sais quelle chaudière qu'un garçon de taverne venait surveiller de temps en temps. Sur le manteau de la cheminée, au-dessous d'un râtelier chargé de pipes parmi une foule d'affiches énormes, émanaient des proscrits entre l'annonce de Charles Leroux recommandant son établissement de brochage, la pancarte de Ribaud inaugurant sa chapellerie du Chapeau Rouge, s'étalait, collé avec quatre pains à cacheter, le placard réclamant une enquête et une justice prompte, signé Hubert. On voyait ça et là sur les tables des verres d'eau, de vie, des pots de bière. Tout autour de la salle pendaient à des rangées de clous, des casquettes vernies, des chapeaux de paille, des feutres mous. Un vieux damier dont les carreaux blancs n'étaient guère plus blancs que les carreaux noirs était accroché au mur au-dessus de la tête de Hubert. J'étais assis avec Ribérol et mes fils dans l'angle près de la cheminée. Quelques-uns des proscrits fumaient, l'un une pipe, l'autre un cigare. Ça faisait dans la salle peu de lumière et beaucoup de fumée. Le haut des fenêtres, en guillotine, selon la mode anglaise, était ouvert pour laisser passer toute cette vapeur. La séance commença par l'interrogatoire de Hubert. Dès les premiers mots, Hubert ôta son chapeau. K.N. l'interrogea avec une gravité un peu théâtrale, mais quel que fût l'accent, on sentait un fond lugubre et sérieux. Hubert dit ses deux prénoms, Julien Damasène. Hubert avait eu le temps de reprendre sa présence d'esprit. Il répondait avec précision. À un certain moment, comme on lui parlait de son retour par le département de l'Eure, il rectifia, par je ne sais quelle erreur de K.N., pardon, Louviers est sur la rive droite et les Andelys sont sur la rive gauche. Du reste, il n'avoua rien. L'interrogatoire fini, on passa à la lecture des procès-verbaux de la commission, des témoignages et des pièces. Cette lecture commençait dans le calme le plus profond, souleva une rumeur qui allait grossissant à mesure que les faits apparaissaient plus noirs, plus odieux. On entendait ces murmures étouffés, le gueux, le scélérat. Est-ce qu'on n'a pas envie d'étrangler sur place ce schnappant ? Au milieu de cette basse continue d'imprécations, le lecteur était forcé d'élever la voix. C'était Ratier qui lisait. Mahé lui passait les pièces. Beauvais l'éclairait avec une chandelle de suif dans un chandelier de fer. Le suif coulait goutte à goutte sur la table. Après les dépositions des témoins lus, Ratier annonça qu'il arrivait à la pièce décisive. Le silence revint, un silence fébrile, inquiet, absolu. Charles me dit cette chose étonnante, on entendrait voler un mouchard. Ratier lut la lettre de Hubert à Maupas. Maupas, c'est l'inspecteur de police contre les proscrits. « Tant que la lettre dura, on se contint. Les poings se crispaient. Quelques-uns mordaient leurs mouchoirs. Quand le dernier mot fut lu, la signature cria le vieux Fonberteau. C'est encore un cordonnier, c'est un concierge, c'est un militant socialiste, etc. La signature, cria le vieux Fonberteau, Ratier dit signer Hubert. Alors ce fut effrayant. L'explosion éclata. Le silence n'avait été que de l'attente mêlée de je ne sais quelle hésitation à croire une telle chose. Quelques-uns avaient douté jusque-là et ont dit « c'est pas possible ». Quand cette lettre apparut, écrite par Hubert, datée par Hubert, signée par Hubert, évidente, réelle, incontestable, sous les yeux de tous, dans les mains de tous, le nom de Maupas écrit par Hubert, la conviction tomba au milieu de l'assemblée comme la foudre. Les faces furieuses se tournèrent vers Hubert, plusieurs bondirent sur leurs bancs, des poignets menaçants géants se levèrent sur lui. Ce fut comme une frénésie de rage et de douleur. Une lueur terrible emplit tous les yeux. On n'entendait que des cris, l'infâme, le misérable, le brigand. Fombertho, dont le fils est à Belle-Île, cria « Voilà les scélérats qui nous vendent depuis 20 ans !»« Oui, reprit un autre, et c'est grâce à ces êtres-là que les jeunes sont dans les cachots et que les vieux sont dans l'exil. Un proscrit dont j'ignore le nom, grand jeune homme, blond, monta sur une table, montra Hubert et cria « Citoyens, à mort !» Vous entendez, à mort ?« À mort !» représentèrent une foule de voix. Hubert commençait à regarder autour de lui d'un air égaré. Le même jeune homme reprit « Nous en tenons un qui ne nous échappe pas. Jetons-le dans la Seine. » Il y eut un éclat de rire sinistre. « Tu te crois donc encore sur le pont neuf ?» Alors on reprit « Bah alors à la mer, le mouchard, avec une pierre au cou. Oui, passons-le au bleu. » Alors c'est le bleu, c'est une horreur que l'armée française a fait pendant la guerre d'Algérie de cette époque-là. Ils pendaient les gens par les pieds, le sang montait à la tête, ça s'appelait passer au bleu. Pendant le tumulte, Mahé m'avait remis la lettre de Hubert et je l'examinais avec Ribérolle. Elle était écrite en effet sur le second feuillet d'une lettre de famille, d'une écriture un peu allongée, nette, lisible, avec quelques ratures, toute entière de la main de Hubert. Au bas de ce brouillon, par une sorte d'habitude d'homme illettré, il avait signé son nom en toutes lettres. Caïn réclama le silence. Mais le moment était indescriptible. Tous parlaient à la fois. C'était comme une seule âme qui jetait par 60 bouches la même malédiction aux misérables. « Citoyens, cria Caïn, vous êtes juge. » Ce mot suffit. Tous se turent, les mains levées s'abaissèrent et chacun, croisant les bras ou appuyant le coude sur son genou, reprit sa place avec une sorte de dignité sinistre. « Hubert, dit Caïn, reconnaissez-vous cette lettre ?» Jarassé présenta la lettre à Hubert qui répondit « Oui ». Caïn continua « Quelles explications avez-vous à donner ?» Hubert garda le silence. « Alors ?» poursuivit Caïn, vous vous avouez mouchard. Hubert leva la tête, frappa du poing sur la table et dit non. Un murmure courut comme un frisson de colère. L'explosion qui n'était que suspendue faillit recommencer, mais comme on vit que Hubert continuait de parler, le silence revint.
Les admirations littéraires de Fabrice Luchini.
Alors, je remercie pour cette émission Xavier Pestugia à la réalisation, Laurent Baudouin à la technique, Thierry Dupin pour la musique et encore une fois Emmanuel Garassino qui, sans elle, rien n'aurait pu être fait, je le répète inlassablement. Si je viens tous les dimanches, c'est vraiment grâce à elle. Voilà. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, à la même heure, pour la suite de cette histoire, et en particulier cet incroyable plaidoyer contre la peine de mort. Ça, c'est la concrétisation dans un fait qui s'appelle l'affaire Hubert, où Hugo peut manifester de manière concrète ce qui s'est passé à Jersey et à Guernesey quand ils ont chopé un mouchard, qu'ils ont voulu le lapider et que Hugo est rentré en scène. C'est un grand texte, c'est extrait de choses vues. Bonne soirée et à dimanche prochain.